16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui se sont justement créés un personnage jusqu'à parfois se confondre totalement avec lui. Après David Bowie et Romain Gary, deux génies qui ont su se créer des personnages assez chics, vous nous brossez à présent, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un homme qui s'est construit un personnage, disons, un peu moins chic.
Nous ne sommes pas là pour juger, Stéphane. Oui. Mais oui, le mot chic n'est pas le premier qui vient à l'esprit quand on évoque mon personnage du jour, qui évolue dans un univers où les notions d'élégance et de raffinement ne sont pas vraiment centrales, l'univers du catch. Des grands types musclés qui se sautent dessus, moulés dans des combis en lycra, des torses luisants et des triceps huilés, des râles dont on peine à dire s'ils sont de douleur ou de plaisir, ça rappelle les soirées chez David avant le confinement, ces soirées dont il était parfois difficile de respecter le dress code pour les plus timorés.
Désolé de ne pouvoir venir à poil.
Mais non, cet après-midi, on parle bien de catch. Bienvenue dans le monde de la WWF, la World Wrestling Federation, la principale ligue de catch américaine. Un monde en soi, avec ses millions de fans de par le monde et son champion historique, première star de l'histoire du catch, le monstrueux Hulk Hogan, 2 mètres pour 138 kilos, un look plus ricain que Captain America, des bottes jaunes, une moustache jaune, sa carte évidemment de membre du Parti Républicain, et surtout une musculature qui normalement n'existe pas. Vous savez, Hulk Hogan fait partie de ces gens agaçants qui ont des muscles, si on les voyait pas sur eux, on n'aurait jamais su qu'ils existaient. Genre là, sous les côtes, vous voyez, juste avant les éventuels abdos. Là, il a une sorte de vallon rigide. Nous, je vous invite à vérifier, on n'a ni vallon ni rigidité, juste du plat, voire du mou. C'est ça, Hulk Hogan, un type qui a passé sa vie à se construire un corps et un personnage, celui de l'Américain invincible et patriote. Et ça fait 40 ans maintenant qu'il entretient ce personnage. Ça mérite un coup de chapeau, car lorsqu'on s'invente un personnage, le plus dur, c'est évidemment de rester crédible sur la durée. C'est très facile, comme Stéphane, de s'inventer une vie un soir comme ça dans un cocktail où on a envie de frimer.
Moi, j'ai connu Tabarly. Et Camas aussi, j'ai connu Camas. Écoute, j'ai barré un peu.
C'est autre chose que de devoir tenir le personnage durant toute une carrière sportive, car oui, même si le catch est chorégraphié, scénarisé, qu'on sait qui va gagner à la fin, ça reste une activité si physique qu'elle mérite, d'après ses aficionados, le terme de sport. Pour les fans, c'est même une religion. On vient se recueillir au stade, on communie dans les effluves de hot dog, au son sourd et sec des corps qui s'écrasent sur le ring après une douloureuse clé de bras. On sait apprécier la beauté d'une côte qui se brise, d'une hanche qui se disloque, on se bat pour une place dans les premiers rangs, là où avec un peu de chance on pourra gober à la volée quelques gouttes de sueur mêlées de sang des combattants moustachus. Oui, alors bien sûr c'est du chiqué, mais il faut du talent pour faire semblant. Or, le catcheur le plus talentueux a longtemps été sans conteste Terry Jean Bollea, devenu donc Hulk Hogan, star du catch et même au-delà, puisqu'il a tourné ensuite dans pas mal de films qui ont rarement concouru dans la sélection Un certain regard à Cannes, mais pas mal de films quand même. C'est en 58 que le petit Terry vient au monde en Géorgie. Pas cette Géorgie-là, non, l'autre.
George.
4,7 kg à la pesée, pas mal. Mieux, à 12 ans, il pèse déjà 86 kilos, soit seulement 4 de moins que Stéphane aujourd'hui et 37 de plus que David. À l'adolescence, Terry joue dans un groupe de rock dans les bars de Tampa Bay. Quand un soir, parmi ses clients, il y a Jack et Gerald Briscoe, deux figures du catch américain de l'époque. Jack et Gerald repèrent tout de suite la musculature atypique de Terry. Ils s'approchent de lui et lui proposent « Je vous le donne en mille ». Non, pas du poppers, David. Ils proposent de le prendre à l'essai comme catcheur. C'est comme ça que Terry s'initie au petit monde du catch. Son bizutage permet de relativiser celui qu'on a subi à Sciences Po, ses petits camarades ayant eu l'idée rieuse de fêter son premier entraînement en lui pétant la jambe directement. Alors à l'époque, il n'y a pas d'avocat, pas de procès, évidemment, pas de téléphone portable pour prendre des photos. Alors j'ai fermé ma gueule, explique Hulk Hogan, qui en a donc bavé avant de devenir Hulk. Il lui faudra des années pour maîtriser les mille et un raffinements du catch. Du facebreaker, cette technique qui consiste à exploser la tronche de son partenaire contre sa cuisse, au gorilla press drop qui nécessite de soulever l'adversaire au-dessus de sa tête, bras tendu, avant de le laisser choir par terre et de l'achever d'un énorme coup de coude au sol, histoire de l'aplatir comme une galette à la Chandeleur. Parmi ses techniques de prédilection, on citera aussi le double Nelson, qui n'est pas un nœud papillon, le Dragon Screw, dont la traduction serait trop dangereuse, ou encore le redoutable Bern Nipple Twister, pichenette ultra rapide de la main visant à tordre les tétons de l'adversaire afin de leur donner la forme d'un petit haricot vert. La douleur est si intense que l'adversaire ne peut que déclarer forfait, et alors vous pouvez l'humilier.
C'est dommage, hein.
Musclé, vicieux, rapide, le talent de Terry attire l'attention de Vincent McMahon, le légendaire promoteur et propriétaire de la WWF. Non seulement il fait entrer Terry, mais c'est lui qui va lui trouver ce surnom Hulk Hogan. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est encore plus costaud que l'acteur qui interprète à l'époque l'incroyable Hulk. Sa carrière décolle, ses adversaires remercient Dieu d'avoir inventé la coquille de protection. Il enchaîne les victoires et tape dans l'œil de Sylvester Stallone qui lui offre un rôle dans Rocky III. Il y interprète, attention au rôle de composition, un catcheur. 30 ans après, Stallone garde un souvenir ému de ce tournage, je cite « Hulk est un type qui ne connaît pas sa force. Quand il a sauté dans le public pour se battre avec les cascadeurs, trois d'entre eux ont dû être hospitalisés. Super gars, super ami, sa présence a été formidable pour le film, ce fut un privilège d'être mutilé par un tel gentleman. » En 84, Hulk décroche le Graal des catcheurs, la ceinture de champion du monde donnée à la barbe d'Iron Sheik, un personnage de méchant tout en finesse, incarnant un vilain iranien qui ressemblait à une sorte de Yasser Arafat créatiné, torse nu, avec les moustaches de Salvador Dali. La Hulkmania est lancée, elle va durer 12 ans à triompher des méchants et à tourner dans tout ce que le cinéma fait de mieux durant ces années-là, à savoir par ordre de T croissant dans Télérama, Cadence de combat, Monsieur Nounou, Santa with Muscles, le Père Noël avec des muscles, et enfin, les trois ninjas se déchaînent. Hulk est au top, médiatiquement et physiquement, pas peu fier de ses mensurations, il avoue même surnommé une partie de son corps le Python de 60 cm, vous devinez laquelle ? Non, raté Stéphane, son biceps droit. Sorte de musclore patriote évangéliste, il en profite même pour délivrer des messages saints aux jeunes Américains à travers des spots télé où il les exhorte à ne pas oublier, je cite, de prendre leurs vitamines, de boire leur lait et de dire leurs prières. Il est l'Amérique qui gagne, il est l'Amérique qui ne triche pas. Une image qui, hélas, s'effrite en 1994. Quand l'Amérique abasourdie découvre à travers le procès de son mentor, le promoteur Vince McMahon, un bien surprenant poteau rose. En effet, Stéphane, tenez-vous bien, on découvre lors de ce procès que les muscles des catcheurs professionnels ne poussent pas spontanément avec un peu de lait, de vitamines et des prières. Non, pour développer les muscles de ces poulains, McMahon leur aurait fait prendre des stéroïdes. Comment Hulk Hogan, 2 m 138 kg avec 1% de masse adipeuse, prendre des stéroïdes ? Les fans de catch sont sous le choc, surtout que Hulk avoue, oui, il en a consommé, je cite, tout le monde en prenait, c'était comme la LSD chez Stéphane Bern dans les années 2000.
Non, ça c'est faux.
À partir de là, c'est le déclin sportif. Hulk quitte la WWF et tapine à droite à gauche pour d'autres ligues. En 2012, c'est le pompon, cela dit devenu incontournable dans toute carrière de star qui se respecte. C'est évidemment la fuite d'une sextape. Le site Gawker met en ligne la vidéo sexy comique des ébats de papy moustache avec Heather Clem, la femme d'un de ses amis animateurs radio. Vous, Stéphane, quand un ex balance une sextape de vous sur les notes, vous réagissez promptement.
Je demande à mon avocate d'intervenir immédiatement.
Hogan, lui, tarde à réagir. La vidéo reste en ligne plusieurs jours et c'est pas malin parce que dans cette vidéo, et c'est surtout ça qui pose problème, il ne se contente pas de baiser, il parle aussi. Et ce qu'il dit n'est pas joli joli. Le site Gawker diffuse notamment un extrait de cette sextape où Hulk Hogan tient des propos clairement homophobes puis frontalement racistes, reprochant à sa fille de sortir avec, je cite, « trop de noirs, même pas riches ». Ah là là, c'est noir, conclura notre sympathique catcheur, comme un militant RN à une pendaison de crémaillère chez Jordan Bardella. Là encore, la réaction de Hogan laisse à désirer, au niveau juridique en tout cas, puisqu'il admet, je cite, « être raciste jusqu'à un certain point ». Qu'est-ce qu'être raciste jusqu'à un certain point ? Je pose la question. Bon, conscient d'avoir dérapé, Hogan se répandra ensuite en excuse, ce qui n'empêchera pas la fédération de résilier son contrat. Fin de carrière en eau de boudin, donc pour la légende du ring, qui retrouvera néanmoins le sourire en gagnant son procès en diffamation contre le site Gawker. 31 millions de dollars en dommages et intérêts. Son avocat lui avait dit « Ok, cool, maintenant tu te tais ». Message reçu 5 sur 5, jusqu'au 12 janvier dernier où Hulk a décidé de nous gratifier sur Instagram de sa vision de la politique vaccinale américaine contre la Covid. Je cite « Hey les gars, peut-être qu'en fait on n'a pas besoin de vaccin. Peut-être qu'il faut juste saisir cette opportunité de s'isoler loin des distractions du monde et se concentrer sur la seule chose qui compte vraiment, Jésus ». Quelqu'un forward à Macron ? Parce que peut-être qu'on est en train de faire fausse route avec cette idée de tout miser sur les vaccins alors que Dieu est dispo pour tout arranger gratuitement. Bref, de Hulk Hogan, on se souviendra de ses prouesses sur le ring, un peu moins de ses prouesses hors du ring, et on se demandera dans quelle mesure Terry, le jeune homme féru de musique qu'il était à 20 ans, n'a pas été phagocyté par la masse de muscles qu'il est devenu à travers le personnage caricatural de Hulk Hogan. C'est fort probable, mais ne lui jetons pas la pierre. C'est dur de jouer un personnage toute sa vie sans jamais se trahir. Prenez Stéphane par exemple. 20 ans qu'il essaye de se présenter comme un citoyen exemplaire, payant ses impôts en France. Et puis, il suffit d'une fraction de seconde d'inattention et c'est le lapsus révélateur.
J'ai aucun problème avec les montages financiers au Luxembourg. Enfin, je veux dire, j'en ai pas.
Oui. Et puis aussi, Stéphane, on arrête les nipple twisters, hein, sinon je ne prends plus l'ascenseur avec vous.
Merci Mathieu. Bon, il y a beaucoup de faux, mais
il y a beaucoup de vrais, hélas, concernant ce Hulk Hogan, chez qui j'espérais déceler un peu de finesse et d'humanité, mais plus vous creusez, en fait, plus vous allez
le
sur son Instagram.
Effectivement. Ah bon, merci beaucoup Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.